Donc, pour ce premier club de lecture de l'année scolaire 2019-2020, on va commencer avec Les Bienveillantes, qui était le livre que nous avions choisi pour l'été. Donc, j'espère que cette nouvelle formule d'ouverture va vous plaire et que vous allez vous empresser de lire les livres, et surtout parce qu'il a été, il va être présenté, il a été très extrêmement travaillé par Chantal. Alors, est-ce que tu as aimé, tu n'as pas aimé, on te cède la parole.
Aimé et pas aimé, je le dirai à la fin, d'accord ?
Très bien.
J'ai un ordre dans les aspects que je vais décalculer par. D'accord. Alors d'abord, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était une grande responsabilité pour moi parce qu'il s'agit d'un livre à part, comme vous avez dit, un pavé de 1400 pages, mais ça c'est pas trop grave, ça c'est simplement du temps, mais c'est surtout parce que c'est un livre plein de thématiques, hein. On a l'histoire, des thèmes d'histoire, la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, d'autres guerres aussi. On a l'antisémitisme et on a plein de références littéraires aussi. Et on pourrait parler des influences littéraires de l'écrivain parce qu'il y en a plein. On les voit si on le sait ou si on a fait des recherches, parce que moi je ne les voyais pas, je ne les connaissais pas. J'ai fait les recherches, d'accord ? Donc je pense que c'est un livre qui aurait dû être présenté par notre cher collègue Ahmed. Parce que c'est lui qui a le plus de culture, d'histoire, de musique, de... Bon, de musique, je ne sais pas.
Mais de musique, non.
Ben, parce qu'ici, il y a plein de références musicales aussi. D'accord. Donc ça, c'est...
Mais le honneur, premier Goncourt de l'année, bon, il est le Goncourt de 2006. Voilà, donc c'est un livre de 14 ans déjà.
Voilà. Donc c'est c'est un livre de... Alors j'ai préparé un petit index pour que vous sachiez ce que j'ai préparé. Et comme c'est très long, on ne peut pas tout parler de tout. Alors c'est vous qui allez dire... nous intéresse, ça serait plutôt voir ceci ou cela.
Tu sais que c'est ce qui m'avait interpellé, moi, quand je l'avais lu, c'est un livre qui avait fait scandale en France.
Oui,
en effet,
oui.
Parce que raconter de cette façon la Shoah, peut-on raconter d'une façon de... peut-on raconter la Shoah par une fiction ? C'est
oui,
ça. Et
voilà,
comment elle est racontée ?
Oui.
Donc, c'est intéressant.
Ça a été polémique.
C'est très polémique. Oui. Sachant que c'est vrai qu'en Espagne, il n'y a pas ce problème-là avec des thèmes comme la guerre. Mais la Shoah, c'est toujours extrêmement délicat, voire quand ils avaient fait La vie est belle de l'italien,
oui.
Ça avait été polémique. Je sais pas, pour vous, est-ce que ça vous a aimé ? Est-ce que vous avez aimé ? Est-ce que toi, tu as aimé à...
Alors, évidemment, au début, c'était quand j'ai commencé à lire, je pensais que c'était l'histoire, la vraie histoire.
Ouais.
Et alors, dans ce cas-là, quand je continuais ma lecture, évidemment, j'ai vu que bon, c'est une fiction. Et là, je me suis sentie un peu perdue, hein, parce que je pense que c'est proche dans le temps. C'est quelque chose qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Et alors, je me sentais un peu bousculée.
Hein, parce que c'est l'histoire des camps de concentration.
Voilà.
C'est ce que j'ai mis, c'est ce que j'ai... ce que j'aime pas des romans historiques, c'est qu'il faut très bien... Soit tu sais très bien l'histoire et tu sais différencier ce qui est vrai, ce qui est réel de ce qui est fiction, soit c'est un problème pour toi parce que tu dis ça c'était vrai, ça s'est passé. Donc soit il faut être très connaissant de l'histoire pour reconnaître et savoir différencier ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, ou soit tu dois faire des recherches.
Parce que l'histoire, pour résumer, c'est les mémoires plus ou moins d'un tortionnaire. Un tortionnaire dans les camps de la mort, et à partir de là, il y a des histoires qui s'enchemêlent.
Il y a sa vie personnelle, tout à fait, c'est parallèle.
Voilà.
Il y a l'histoire, il y a d'un côté, mais pas d'un côté et d'un autre, parce que c'est entremêlé.
Oui.
C'est l'histoire du livre, de la Shoah, mais, et de la Seconde Guerre mondiale, et en même temps, son histoire personnelle à lui.
En parallèle.
Mais c'est bien, justement ça j'ai aimé.
Oui.
Malgré le fait que j'ai dit que je n'aime pas les romans historiques parce que je ne sais pas différencier les faits réels de la fiction, mais j'ai aimé sa façon de le faire.
Il est historien, lui, de formation, et c'est un agrégé d'histoire. Et je crois que sa thèse est sur les camps de la mort, je crois, non ?
Je sais qu'il a fait beaucoup de recherches.
Je crois que sa thèse est sur les camps de la mort ou sur... Il me semble. Et il a été le Goncourt de 2006.
La même année, il a gagné aussi le prix du roman de l'Académie française. Il a gagné les deux.
Voilà, c'est souvent, ça va souvent de pair.
Il a gagné les deux. Voilà. Oui, alors, dans la même année, il a gagné le prix Goncourt et l'autre prix.
D'accord. Donc on a même un topo sur les prix Goncourt. Quelle est l'histoire des prix Goncourt ? Chantal l'a fait.
Alors le prix Goncourt, c'est un prix littéraire français récompensant les auteurs d'expression française. Ouais. D'accord ? Il a été créé par le testament d'Edmond de Goncourt. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, en 1892. Mais la Société littéraire des Goncourt est officiellement fondée en 1902. Le prix Goncourt est officiellement fondé en 1902 et le premier prix Goncourt proclamé, ça a été le 21 décembre 1903. Donc ça fait...
Ouais, parce que les frères Goncourt avaient toujours eu un problème, c'est que c'est des auteurs de seconde zone un peu en France. Ils ne recevaient jamais de prix parce que c'est l'époque de Victor Hugo et donc tout le monde leur faisait ombrage. Et donc ils ont inventé un peu ça pour se faire connaître. Et c'est très marrant, c'est qu'on connaît plus les prix que les œuvres de ces...
D'eux-mêmes.
Les œuvres n'ont jamais marqué la littérature, disons... Mais c'est ça qui est intéressant. La rentrée littéraire de chaque année.
Oui, le prix annuel, c'est au début du mois de novembre.
Ouais.
D'accord. Après trois présélections successives.
Voilà. D'accord. Et la dernière tombe le 30 octobre, qui va couronner les cinq finalistes ou les quatre finalistes. Et après, voilà. Et la première semaine du mois de novembre, c'est la semaine des prix littéraires français.
Ouais. C'est un des prix les plus anciens et les plus prestigieux.
Voilà. D'accord. Parce que on récompense un auteur, quelle que soit la maison d'édition.
Voilà.
Ce n'est pas comme en Espagne où le Planeta récompense un auteur qui écrit pour le Planeta. Voilà. Là, ça peut être de Gallimard, ça peut être de Paul, ça peut être Flammarion, ça peut être Actes Sud, etc. Voilà. Donc, là. Et lui, est-ce que c'était son premier roman ?
Non. C'est considéré son premier roman, voilà. Et souvent ils disent que c'est son premier roman, mais en fait, il avait écrit une science-fiction, il avait écrit.
Ouais.
Science-fiction.
Mais quelques années avant, parce que on peut pas. Il était jeune quand il a écrit, il devait avoir 36 ans.
Les Bienveillantes, c'est son deuxième livre, mais c'est considéré sa première œuvre. Il différencie entre son premier livre et sa première œuvre. Mais j'ai mis dans ses œuvres.
Bon, pas grave ça.
Oui, je l'avais.
Moi, ce qui m'a dérangé par rapport au livre, c'était tout le côté de la Shoah, comment c'était raconté. Moi, je sais pas, ça m'a...
Mais c'est trop violent.
Qu'est-ce que tu n'as pas aimé ?
Trop de descriptions.
Ouais, il y avait de la description. Moi, ça fait longtemps que je l'ai lu. Description, la violence, je sais pas si c'était pas extrêmement gratuit à la fin. Je sais pas.
Tu trouvais trop violent, mais
c'était violent. Mais c'était une violence, c'est vrai que... alors que peut-être après, avec le temps, quand tu lis les mémoires de Simone Veil dans Ma vie, je trouve que c'est encore plus violent. Comment des fois elle raconte comment on choisissait, comment... voilà, et c'est sans description et c'est un fait concret, comment on lui dit à elle, t'es trop jeune, t'es trop belle pour mourir. On lui dit, mais toi, sur l'autre côté, là, ça, je sais pas. J'ai trouvé un peu trop cinématographique.
Oui.
Je sais pas. Toi ?
En fait, ils ont fait un court-métrage sur ça. J'ai trouvé un film de Juliette Chenet, adaptation du roman. Oui, il est réalisé en octobre 2014. Ah, bon. Mais j'ai pas réussi à voir si c'était un film,
non,
si
pas
c'était un court-métrage.
Ça peut être un court-métrage ou un documentaire.
Oui, c'était très court.
Ouais.
Je l'ai vu.
Non, moi ça me dit rien.
Ça me dit rien. Non, voilà. Tu vois, c'est pour ça que j'ai mis des interrogations que je savais pas. D'accord. Son premier roman, c'était de science-fiction. Oui, comme j'ai dit, ça s'appelait Bad Voltage. 1989. Oui. Mais tout le monde considère que sa première œuvre, c'est Les Bienveillants.
Bon, mais est-ce que toi, tu as aimé, après tout ce travail ? Pourquoi ?
Moi, j'ai aimé la façon dont ça a été écrit, cette façon de mettre sa vie personnelle, cette façon de dévoiler les choses très peu à peu. Il nous donnait des petits détails, et vous ne savez pas trop, comme son premier amour, par exemple, la femme qu'il avait aimée. C'est très tard après qu'on apprend que c'est sa sœur. C'est pas tout au début. Même les noms, j'aime bien les noms des protagonistes, pas seulement le sien, mais de sa sœur. On les sait très peu à peu. À un moment donné, on sait que c'est O, après on sait que c'est Max. Mmh. Et cette façon de mêler avec sa vie, parce que sinon ça serait trop dur et trop violent toute l'œuvre. Si on était tout le temps en train de voir les aspects de la Seconde Guerre mondiale, tous les bombardements, tous les morts, tous les cadavres dans les rues, si on était en train de voir tout le temps seulement en train de tuer les Juifs, etc., ça serait très dur à supporter ce livre. Mais pour moi, c'était comme une montagne russe. C'était très fort et un peu de relax avec des choses parfois marrantes. Il était un peu le personnage de O. L'auteur fait que son personnage soit ironique. Je sais pas, j'ai aimé aussi parce que j'ai appris des choses. Par exemple, j'avais vu beaucoup de films ou lu des livres sur ce thème. Mais dans tous les livres ou les films que j'avais vus, c'est toujours la même histoire, tout ce qu'on connaît bien. Comment on prend les Juifs, on les amène aux camps de concentration ou d'extermination, ça dépend. Les douches, etc. Mais je n'avais jamais vu un livre qui traite de toute l'organisation, la logistique du processus de tuer.
C'est de l'extermination,
mais c'est incroyable. Tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils avaient préparé, toutes les personnes qui étaient responsables, tous les mécanismes qu'ils cherchaient. Ah ben maintenant, avec les balles, non c'est trop, on va chercher autre chose. Ils cherchent le gaz, ceci, cela, et la cruauté et l'indifférence. Je veux dire, je n'avais jamais pensé à ce que ça pouvait être difficile pour eux d'organiser tout ça. J'avais jamais songé à ça. Vous aviez songé, vous, à comment ils ont pu organiser ça? Comment ils ont pu faire que tout à coup, ceci arrive?
Moi, quand je lisais, ce qui était le plus difficile pour moi, c'était les différents grades, c'est-à-dire entre eux, je ne sais pas si on dit comme ça, mais tous les officiers, bon, chacun avait sa responsabilité. Alors, chacun faisait justement ce qu'on lui avait dit de faire.
Oui.
Mais sinon, hop, ça passait à un autre. Alors, ils faisaient, disons, leur boulot et c'est fini. Il y en a qui souffraient beaucoup, évidemment, qui étaient malades et qu'il fallait peut-être les renvoyer. Et d'autres qui continuaient à faire le boulot. Et pour moi, ça a été très difficile, premièrement, parce que tous les termes en allemand, pour moi, ça a été très compliqué. Je sautais carrément certains noms qui avaient 10 syllabes, pour moi, je ne sais pas si c'est des syllabes, mais en fait c'était très compliqué. Oui. Et ça a été lourd pour moi. Enfin, ce que j'ai senti, c'est un peu c'est ça. C'est-à-dire, ce boulot qui était fait entre tant de gens et l'économie, par exemple, pour tuer quelqu'un, il ne faut pas deux balles, parce qu'il vaut mieux le tuer en une fois. Alors ça, c'est dur, Et après, c'est vrai qu'il y a eu, le long de la lecture, il y a des moments un peu humoristique, parce que quand il y a les détectives là, les détectives,
ça fait un peu comique. Ça fait BD, c'est un peu BD.
Voilà.
C'est...
Il y a des moments un peu, je dis bon, ça c'est pas réel, et c'est son ami Thomas aussi qui apparaît.
Est tout le jour là, il
apparaît
là.
Juste au moment le plus compliqué. Hop, il est là, le sauveur. Il va finir mal le pauvre. Mais ça, c'est vrai que ça a été une lecture pour moi difficile. Parce qu'il y a eu exactement tout ce changement de... Moi, je me sentais mal. Parce que des fois, je disais, c'est tragique, des fois, c'est humoristique, des fois, c'est vrai, c'est
mais
pas
oui,
vrai.
Mais justement, ça m'aidait quand même.
Et pour moi, ça a été
ça m'aidait.
long. Évidemment, je voulais avancer plus vite et je ne pouvais pas. Il fallait que je m'arrête.
Moi, pour les noms que tu as dit, tous les noms des grades et des officiers, tout ça, c'est vrai qu'au début, ça m'embêtait. Après, j'ai dit, non, il ne faut pas que ça m'embête. Ils sont là.
On les lit par-dessus.
Ils passent et... Mais c'est vrai que c'était surprenant. C'est pour ça qu'à un moment donné, je les ai tous copiés, mais rien que pour qu'on voit visuellement comme c'est incroyable tous les mots qu'ils ont mis.
C'est pas possible. Les différents
mots. Non, je les ai après.
Oui.
Je les montrerai. Mais c'est incroyable, ça, une quantité de noms comme ça dans un roman. Ouais. J'avais jamais vu.
Mais c'est de là qu'on garde le terme Shoah, parce que c'est vraiment, ça a été tout ce côté pensé. Vraiment repenser pour exterminer un peuple, pour exterminer. C'était vraiment quelque chose qui était extrêmement très très pensé. De là qu'on parle de Shoah, parce que c'est pas simplement on arrive, on tue les gens, c'est comment on pense. Et dans la Shoah, c'était est-ce qu'une femme juive qui avorte, est-ce qu'on on la garde ou pas, sachant que elle a tué un juif. On pensait à des choses comme ça. C'est vrai que ça a été extrêmement pensé, repensé et même. Ça va au-delà de l'imaginaire.
Oui.
Ah. Mais c'est vrai que moi je l'ai trouvé très long. Moi ça, peut-être parce que à la fin j'avais envie que ça finisse.
Moi, je dis oh là là ça va finir, je veux en savoir plus. Non, ça n'a ouais. pas été long pour moi.
Ouais. J'ai trouvé que c'était.
Non parce que c'était des étapes très différentes.
Oui.
Chaque chapitre avait été dans un lieu très différent. Et les choses qui arrivaient étaient très différentes, donc
c'est trois livres. En gros, on a comme si on disait.
Comme si c'était une série avec les
voilà.
Regardez les noms que je vous disais.
Il y en a
ça,
beaucoup.
C'est
il y a
tous les personnages, tous les noms qui sont sortis.
Mais
tu dois en avoir au moins.
Tu dois en avoir combien par page?
J'ai pas mis les protagonistes les plus importants.
Tu en as mis combien à peu près? Une cinquantaine par page. Il y a à peu près 400 personnages.
C'est incroyable.
Peut-être il y a 300 personnages.
Et chaque fois qu'il changeait qu'un chapitre commençait, c'est là qu'il y en avait le plus, parce que c'était tous les nouveaux personnages. Ce qui m'avait choqué au début, mais après j'ai compris, c'est que quelqu'un qui raconte quelque chose, comment il pouvait savoir, se souvenir de tous les détails. Il savait les menus, chaque chose qu'il avait mangé, de chaque personne, son nom. Mais ça, c'est parce que c'est le regard du narrateur qui veut faire comme une description, comme une peinture. Il le dit lui-même, le regard d'un peintre.
Voilà.
On voit tout à travers ses yeux, tout ce qu'on connaît, donc c'était nécessaire. On ne peut pas penser, c'est irréel, jamais il se souviendrait de tous ses noms, de ce qu'il avait. C'était exprès, ça fait partie de mais ça, je l'avais fait parce que je dis, c'est comme ça qu'on peut les voir.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pratiquement plus de romans de 1000 pages. En livre de poche, ça devient un roman de 1300 poches. Parce que c'est vrai que les maisons d'édition, ça fait peur. En disant, qui va acheter ça? Tu dis à quelqu'un, je t'offre un livre de 1000 pages.
C'est un risque. C'est un risque, ouais.
Mais c'est les derniers, peut-être le dernier, ou c'est peut-être, c'est sûrement le Goncourt le plus long. Avec le plus nombre de pages, parce que les autres, c'est fini. Hein.
Et après, c'est vrai, d'accord, c'est fictif, le personnage est fictif, tout, d'accord. Il sort dans le livre avec des personnages fictifs, mais avec des personnages réels aussi, tout à fait. Et ce qui est intéressant, moi, je pense que ici c'est fictif, mais c'est sûrement la réalité. C'est quand il dit que parmi ses collègues, il y avait trois tempéraments. Ceux qui tuaient avec volupté, c'était des criminels qui s'étaient découverts grâce à la guerre. Ceux à qui cela dégoûtait de tuer, et ils le faisaient seulement par devoir. Et ceux qui considéraient vraiment les juifs comme des bêtes qu'il fallait éliminer, donc pour eux, c'était pas. Et je pense que c'est vrai qu'il devait y avoir ces trois types.
Ah oui, oui, il y avait un moment. Mais à un moment donné, ou peut-être il y avait même. Tu avais. Même dans les propres camps, quand le juif qui aidait à dire toi, vous allez vous doucher, c'est rien, c'est normal. À un moment donné, on veut sauver nos peaux. Et c'est là, dans les mémoires, là, quand on reprend Simone Veil, quand elle dit qu'il y a quelqu'un qui s'accroche à sa jambe et elle continue à marcher parce que tu ne peux pas t'arrêter à aider.
Voilà. C'est soi-même. Et c'est
soi-même,
tout.
Voilà.
Oui, c'est
parce
vrai.
Que l'horreur est tellement insoutenable que tu n'as plus le choix. Mais.
Oui, je voulais vous demander à propos d'Una, sa sœur.
Ouais.
À certain moment qu'il considérait que les deux jumeaux étaient les enfants de Max et de Una. Mmh. Et je ne vois pas pourquoi, étant donné que dans le livre, il explique qu'il avait eu des relations avec sa sœur quand ils étaient petits, mais étant adulte, non. Et pourtant, dans les critiques, dans les trucs que j'ai lus, tout le monde dit que c'était sûrement ses enfants à lui.
Ouais, moi non plus, non. Sauf s'ils aient eu, parce que c'est vrai qu'adulte, est-ce qu'elle a...
Adultes, ils se sont retrouvés une fois, et lui, il nous a raconté qu'ils ont eu des relations, mais après il dit non, c'était mon imagination, ça ne s'est jamais passé.
Sauf s'il a menti. Ah,
du même c'est fait possible. Qu'il dit qu'il n'a pas tué ses parents.
Voilà. Et là, se pose la question de ce qui est vrai, ce qui est faux dans tout le roman. Voilà.
Je ne saurais pas dire.
Voilà, moi non plus.
Oui, parce que...
S'il l'a fait, il ne l'a pas fait.
Et une chose qui m'a choquée, parce que je suppose que toi, tu as le même livre, on a tous lu la même version, quand Hitler va les décorer, il lui mord le nez.
D'accord,
c'est ce que vous avez tous lu. Et bien, en faisant des recherches, partout, dans tous les endroits, dans toutes les recherches que j'ai faites, ils mettent qu'il lui pince le nez. Qu'il lui pince le nez comme on fait à quelqu'un. Et ils disent, il fait ça d'un air de dire, t'as pas été gentil.
Oui, quand on faisait au gamin comme ça.
Voilà. Et partout, ils ont écrit ça. Il lui pince le nez. Pourquoi? Alors que...
Mais tu l'as lu dans d'autres versions?
Non. Dans d'autres versions, non. Tu fais des recherches sur des critiques et des choses commentées sur le livre. Et dans plusieurs, de ressources différentes, ils disent tous, il lui pince le nez. Et d'un air de dire, t'as pas été gentil.
Oui, quand même.
Et moi, dans ce que j'ai lu, il le mord violemment le nez.
Moi, dans ce cas-là, j'imaginais que à la ligne suivante, on le tue.
On savait que non, puisqu'il il nous a raconté qu'il était dans la dentelle, mais sinon, on aurait pensé qu'il le tue.
Voilà, évidemment. Alors peut-être c'est un geste moins violent, mais enfin.
Tu ne sais pas pourquoi.
Mais enfin, ça me paraissait aussi.
Mais ça m'a semblé bizarre parce que je l'ai vu dans plusieurs ressources.
Oui, sûrement. Mais de là que, après, c'est vrai que lui, il est docteur en histoire contemporaine. Peut-être il y a eu un moment donné que certains ont mordu. Tu sais, après, voilà, je ne sais pas. Parce que c'est toujours le thème des. Parce que lui, je crois qu'il était. Il est historien de cette époque-là. Donc spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Donc, peut-être c'est des recherches, je ne sais pas.
Ça m'a choquée. J'ai dit, mais j'ai bien lu et j'ai recherché les pages. Comme quand je faisais les résumés, je mettais toutes les deux ou trois phrases, je mettais le numéro de la page. Parce que comme ça, si après je voulais chercher quelque chose, c'était facilement localisé. Donc, j'ai dit, ah bah tiens, je vais relire. Il me mordait le nez, carrément. Ensuite, il y a des choses que j'ai voulu vérifier. D'accord ? Alors, je vous ai apporté des choses qui m'ont semblé intéressantes.
Tu veux des personnages ?
Ou des faits historiques ?
Par exemple, ça m'avait choqué. À un moment donné, il est dans une soirée et il dit qu'il y avait Cole, je crois qu'il s'appelait, et sa femme était folle, il dit. Elle voulait qu'on tue exprès les juifs, les détenus, même s'ils n'étaient pas juifs. Parce que ça, on peut en parler aussi, si vous voulez, de tous les détenus, tous les tués, pas seulement les juifs. Elle voulait qu'on tue les détenus qui étaient tatoués pour se faire des abat-jour. Donc ça, c'est une chose qui m'a choquée et j'ai voulu savoir. Ça y est, c'est une chose qui est fictive.
Non, on faisait réel. Avec la peau, on avait pensé faire des... On voulait faire avec du savon. On avait pensé faire du savon et avec la peau, on voulait faire des meubles. Et c'était des lampes.
Des portefeuilles, des lampes. Voilà, j'ai recherché et c'est en effet... Voilà.
C'est vrai.
Vrai oui, oui. Des sacs à main, des pelures. Parce que j'ai trouvé une transcription du procès de Nuremberg où il y a les témoignages de certains nazis qui étaient là et on lui dit, avez-vous eu connaissance du sort des hommes tatoués? Voulez-vous nous dire ce que vous en savez? Et il dit, oui, en effet, les peaux humaines tatouées étaient entreposées au bloc 2 qui s'appelait la pathologie et on prélevait ses pots.
Oui,
oui, oui. Il y avait des commandes et ils s'en servaient pour relier des livres.
Oui.
Et quand les Américains ont libéré le camp, ils ont encore trouvé dans le camp, dans ce bloc, les pots tatoués et tannés. Oui. Donc c'était vrai. Et les internés tatoués étaient particulièrement destinés à cette sorte de mutilation. Dès qu'ils étaient tatoués, ils les mettaient de côté.
On les gazait. Je ne sais pas s'ils étaient gazés ou simplement on les tuait après. Oui. Alors, avec la peau, on voulait faire aussi du savon. On avait pensé à faire du savon. On voulait, avec les cheveux, faire comme de la laine, des choses comme ça. Oui, oui, c'était vraiment... Ils avaient... Non seulement on te tuait, mais après la mort, tu servais à quelque chose.
Ouais.
Parce que comme tu n'étais pas considéré être humain...
Voilà, oui,
pas être humain, donc c'est voilà, c'est comme des animaux.
Dans le livre, ils disent quand le protagoniste est accusé d'avoir tué sa mère et son beau-père, il y a un de ses chefs qui dit non, ça, c'est les gens qui font ça, c'est les tziganes, c'est les juifs. Mmh. Toi, tu es un pur allemand,
voilà.
Jamais tu ne ferais ça, c'est clair et absolument évident. Parce que ce sont les autres qui sont considérés des
sous-hommes.
Des sous-hommes. Et une autre des choses que j'ai voulu... bon, ça aussi, j'ai cherché Adolf Eichmann parce que c'était... Il dit ensuite devenu célébrité.
Oui.
Mais aussi la fabrique, l'usine à enfants. L'usine à enfants.
Je ne l'ai pas lu, ça.
Si, parce qu'à un moment donné, vous vous souvenez des trois secrétaires, là, qu'ils ne distinguaient jamais.
Oui, oui.
De l'homme qui était en fauteuil roulant.
Oui. Chacune
était... À un moment, il lui propose deux fois d'avoir des relations avec elle pour faire des enfants pure race.
Voilà, c'est vrai.
Et bien parce que pour créer une race, Ariane pure, les nazis ont conçu des usines à enfants. Mmh. Toi, tu vas le savoir, c'est sûr. Qu'il y a des milliers d'enfants qui sont nés comme ça. Ils les mettaient exprès, c'est un projet monstrueux. Et ça s'appelait le Lebensborn, fontaine de vie.
Oui.
Ils prenaient les Allemands pure race et les femmes aussi pour faire des enfants. Et c'était une fabrique comme une usine. Entre 9000 et 12000 enfants sont nés. Dans ces centres. Ça, je ne savais pas, vous connaissiez ?
Moi, je le savais, mais pas avec un chiffre
comme ça.
9000, ouais. Moi, tu vas me dire sur 10 ans.
Et il y a des milliers d'enfants qui ont été arrachés à leur famille et ils n'ont su que beaucoup plus tard que c'était des enfants nés comme ça. Parce qu'ils pensaient que ça allait. Bien sûr, ils pensaient qu'ils allaient gagner la guerre, qu'ils allaient
dominer le monde.
Dominer le monde. Qu'ils allaient tout réussir et qu'ils auraient pendant 1000 ans une race pure, et ça serait vraiment...
Et donc, ce qui est intéressant en lisant le livre, là, c'est voir après le travail des Allemands par rapport
après la guerre.
Oui. Qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intégré. Dès les années 60, le thème de la Shoah était, on en parlait et tout. Et surtout, ça a été intégré dans les écoles, de dire voilà, la barbarie de ça. Il y a très peu de pays en France, ils ont eu du mal à en parler des années Pétain. Très vite, il ne fallait pas en parler. En Espagne, regarde ce qu'Espagne, évidemment, mais à l'Allemagne, elle a su très vite
faire face. C'est pour ça qu'ils disent que l'auteur, Jonathan Little, a fait ce livre aussi, surtout parce qu'il veut pas que les gens se taisent, il veut obliger à parler de ça.
La parole, mais c'est surtout ça qui est très intéressant, de voir comment on gère notre passé, qu'à un moment donné, certes, il y a eu des erreurs de l'histoire, et l'Allemagne, c'est vraiment un exemple avec la Seconde Guerre mondiale, mais très vite, dès les années 50-60, on est face à notre... Et toute une génération qui a été élevée dans le culte de ça, très vite, on l'a rééduqué. Alors que... Ah oui, eux, ils ont fait une très belle transition. Hein. ça, parce que je pense que pour un pays, c'est pas facile de se relever de ça. Hein.
C'est surtout
par rapport si tu as des grands-pères qui ont participé comme nazis.
Et surtout qu'au début, les gens ne le savaient pas. C'est comme dans le livre, Hélène, quand il lui dit tout ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils ont tué, même son mari, même ton mari, l'a tué. Elle n'en revient pas. En fait, au début, c'était... Et que
tu as toute une génération que quand le nazisme commence dans les années fin des années 30, 35, 36, de 14 ans, qui finissent avec la guerre, qui sont des hommes de 25, 26 ans, des soldats qui ont été peut-être des bourreaux, et après il faut quand même nettoyer le pays dans le sens figuré. Hein.
Et il y a autre chose aussi, que j'ai.
Ah, le passage quand il y a l'extermination. C'est ce qui est de plus fort au début et tout, je ne sais plus les années que ça dure là. Et après, petit à petit, c'est vrai qu'il faut reconstruire, donc il faut pas les tuer tous, les Juifs, il faut en garder, non, mais ceux qui sont dans des meilleures conditions, bien que les pauvres.
Pour le travail,
pour les fabriques, pour les usines, pour refaire le pays. Donc là, déjà, c'est cette transition qui est là en train de recommencer. Et je pense que c'est une confrontation entre les différents. Toute la politique qui doit se faire un certain temps. Est-ce que tout le monde est d'accord? Tout le monde va au même rythme ou non? Parce que c'est pas facile, non?
Pas facile non plus qu'après les gens qui sont sortis des camps de concentration et ce côté de dire pourquoi moi j'ai survécu et pas l'autre.
Il les voulait pour le travail, mais. Oui. De façon que ça soit le plus économique possible. Et il calculait exactement quel gramme de ration, de nourriture, d'aliments il pouvait leur donner pour qu'ils soient forts pour travailler, mais que ça ne leur coûte pas cher aux Allemands. Et il y a un autre truc que j'ai pas trouvé, je ne sais pas si c'est réel, donc, et j'aime savoir si c'est réel, c'est que deux choses. D'abord, il y en avait une, c'était qu'à un moment donné aussi, ils voulaient offrir un jardin, avec toutes les spécimens. Ils voulaient conserver certaines
comme
races.
Un musée de l'homme.
Comme, alors, je ne sais pas si c'est réel, ils se sont basés sur le jardin, le jardin de Paris.
Le jardin...
Le zoo.
Oui, le jardin des plantes, là où il y a
ceux qui avaient été colonisés.
Voilà,
alors, je ne sais pas s'ils se sont basés sur ça, parce que ça, c'était en 1800, je ne sais pas combien.
Après, c'est vrai que l'époque Berlin a connu aussi les zoos humains. Les zoos humains, ils avaient connu comme l'Espagne. L'Espagne aussi a connu les zoos humains. Je vous avais montré des photos, je crois, que l'an dernier.
Voilà. C'est les années 30. Alors, je ne sais pas si c'est vrai qu'ils ont eu l'idée de faire ça avec les Juifs.
Ah, sûrement.
Ou c'est simplement fictif dans roman.
Parce qu'à Paris, à Paris, au Grand Rex, il y a eu une exposition, c'était le juif, c'était comment reconnaître le juif. Le juif et comment tu... Voilà, c'était sous l'époque de Pétain, dans les années 41-42, et tu as eu une exposition sur le juif. C'est le juif et l'humain, on le comparait le juif évidemment au rat, qui se faufile partout, etc., que tu ne vois pas et qui fait petit à petit qui te détruit la maison et après elle te tombe dessus, le nez du juif, etc., etc. Oui, oui, l'exposition le juif.
Voilà, donc il voulait faire un jardin anthropologique. Hein. Alors il disait qu'il reproduirait un spécimen de chaque race disparue, de juifs, de polonais, d'ukrainiens. Et alors, comme je n'ai pas trouvé...
C'est une arche de Noé.
Si on fait ça réellement, j'ai pensé que simplement, ils se sont basés sur le jardin d'acclimatation de Paris, les eaux humains, de 1877 à 1910. Qu'est-ce que vous en pensez?
Sûrement, parce qu'à l'époque, on est en pleine... C'est l'époque coloniale, il y a eu les zoos humains et à partir de là, tout est possible avec le nazisme. Mais bon, en tout cas, c'est un livre qui ne laisse pas indifférent.
Et autre chose, à un moment donné, quand Hitler voit qu'ils vont perdre, il propose aux gens de les gazer, aux Allemands, aux propres Allemands, pour ne pas souffrir la défaite, tout est perdu. dans le livre, je veux dire. Hein.
Oui.
Il promet une mort facile aux Allemands.
Leur donner une pastille.
En cas de défaite.
Comment ça s'appelle?
Mais ça, c'est le cyanure.
Ils offrent des capsules de cyanure aux spectateurs. J'ai pas trouvé si c'était réel.
Tu es vrai, parce que moi j'avais. Il y a dans un film qu'avaient fait les Allemands, La Chute, ça s'appelle La Chute, c'était les dernières heures de la vie du bunker de Hitler. Mm-hmm. Et tu vois. C'était Göring, je crois que c'était la femme de Göring, qui à un moment donné, donc ils étaient dans le bunker, et qui va mettre du cyanure dans la bouche des. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle endort ses enfants et après elle leur met du cyanure et elle tue ses enfants et elle se tue parce que pour elle c'est inimaginable de revenir dans un monde noirien.
Et
oui.
Il le referait. En cas de défaite comme ça, il leur promet une mort facile.
Une mort digne, ça veut dire que tu n'es ni arrêté, ni on te donne un coup. Voilà. Mais ça s'est fait dans le bunker, Les chiens d'Hitler, on leur a donné du cyanure.
Mais les Allemands en général.
Après, pourquoi pas en disant. C'est La Chute, le film La Chute est très très bien.
J'étais ici en train de chercher parce que hier, quand je lis le résumé, il y avait quelque chose où il mettait le titre de La Bienveillance renvoie à Orestier, dans laquelle. Oui. Il y a des références.
Des références,
les titres. Mais il y a aussi. Des bergeresses qui persécutaient les hommes coupables des parricides.
Oui.
Peut-être ça.
Oui, c'est pour ça qu'il y a une relation avec.
Si, c'est une relation. Il a comparé le protagoniste. Non, les bienveillantes, ce sont les. Comment on dit?
Érinie.
Le rôle, c'était de protéger la cité et de poursuivre les auteurs du crime. Mm. Mais après. Ils avaient tué à la fin elle faisait le contraire, elle protégeait celui qui avait tué, donc ici c'est pareil, elle protège parce qu'il le protège chaque fois qu'il va mourir, il s'en sort parfaitement parce qu'il a ses bienveillantes qui sont. Mmh. Et les autres personnages aussi, il paraît que Klim Rest a assassiné son mari Agamemnon avec la complicité de son nouvel amant. Il y a aussi dans cette même œuvre la proximité incestueuse de la sœur.
Oui.
C'est pour ça qu'on a dit que toutes les références littéraires, elles étaient là.
Oui, tout est là.
Les titres des chapitres, ce sont les danses. Est-ce que je peux vous dire?
C'est autofiction?
Non, c'est pas de l'autofiction, parce que l'autofiction.
Lui, il la raconte, c'est pas son histoire. Non, parce que
mais
c'est pas son histoire.
C'est pas son histoire à lui.
Ah oui.
Lui, il invente une histoire dans laquelle quelqu'un se raconte, mais lui, non.
À un moment déterminé.
Voilà, c'est pas lui qui se met en scène.
J'ai fait une liste aussi des personnages à éliminer dans tout le livre. Les bolcheviks, les juifs, les tziganes, les asociaux, les homosexuels, les pillards, les ukrainiens et polonais, les paysans qui cachaient leurs grains, les fous, les malades mentaux, les patients des asiles, les mangeurs inutiles, les saboteurs, les tatars, les criminels, les askaris, qui étaient des auxiliaires ukrainiens pour tuer les juifs, mais après ils les tuent aussi. Ils les utilisent pour les aider à capturer les juifs, mais après ils sont tués aussi. Les dégénérés, les prostituées, tous les handicapés physiques et mentaux incurables, allemands.
Oui, aussi.
Allemands, même s'ils étaient pure race, mais s'ils sont.
En chaise roulante.
Voilà. S'ils sont aussi. Des vagabonds, des alcooliques, les tuberculeux, les cardiaques. Bon, les cardiaques, ils disaient au moins les stériliser. Voilà. C'était pas la peine de les tuer, mais au moins, parce qu'ils propagent du sang altéré, leurs soins médicaux sont chers.
Ouais.
Mais ils tuent aussi leurs propres soldats, ceux qui essaient de déserter, évidemment, et ceux qui se blessent exprès pour partir de Stalingrad. Et ceux qui sont trop amochés, comme les gueules cassées.
Voilà. C'est la rentabilité.
Voilà.
C'est la rentabilité.
Parce que, bien sûr, c'est cher tout ça. Ouais. Des gens qui ne servent à rien dans la société et dont les soins médicaux
engendrent un coût.
Sont chers.
D'accord.
Non, c'est une société.
C'était vraiment faire une société parfaite.
C'est une société très capitaliste, poussée du capitalisme jusqu'à un extrême.
Vraiment très, très, très.
Et après, on pourrait même pousser ça encore plus.
C'est incroyablement terrible.
apparu, c'est dire une femme à partir peut-être de 50 ans, est-ce qu'elle est rentable ou pas? Après, on dit les vieux. Voilà. Voilà. Après, les vieux, à partir de 60 ans, ils vont coûter cher. Ça aurait pu être ça. Ça aurait dire à partir de 35 ans, oups, voilà. Ouais. En tout cas, ce n'est pas un livre qui laisse indifférent. Voilà, bah, c'est bien. Pour notre premier club de lecture de la rentrée, il faudra choisir un autre.
Et j'aimais aussi les choses que j'ai apprises, par exemple, comment ils appelaient la solution finale, l'euthanasie F4, des choses comme ça.
En tout cas, c'est un livre qui sert énormément pour le concours, pour les thèmes d'histoire.
Ouais. Il y a un vocabulaire historique.
Il y a un vocabulaire historique, et voilà.
Et quelques mauvaises critiques, quelques bonnes critiques.
Voilà, il n'a pas laissé indifférent. Il n'a pas laissé indifférent. En tout cas, c'est ça qui est bien.
C'est intéressant.
Et intéressant. Qu'est-ce que vous pensez du thème
Le thème.
Non, la présence scatologique dans l'œuvre, elle est
omniprésente.
Omniprésente.
Après, moi, ça ne m'a pas dérangé.
Non, pas dérangé, mais elle signifie quelque chose.
Oui, après quoi, je ne sais pas. Après, il y a comme c'est 1300 pages.
Quand il y avait la merde, c'était toujours dans des situations très mauvaises.
Oui.
Les juifs, puis elles ne s'arrêtaient même pas pour chier, parce que sinon on les fusillait. Oui, alors elles se faisaient sur elles. Oui. Lui, quand il est malade, il est partout. Là, quand on les tue avec les balles. Il paraît que ça symbolise la merde. Ici, ça symbolise la merde dans laquelle s'est fourrée l'Allemagne nazie, que plus personne n'avait les mains propres, peut-être. Et aussi la souillure pour le fauteuil. Mais c'est vrai qu'elle est partout. Si tu lis le livre, tu verras, elle est omniprésente.
En tout cas,
musique aussi est omniprésente.
Oui, oui.
À plusieurs moments.
Mais dans les camps, il y avait de la musique. On recevait dans les camps, il y avait eu des convois qu'on recevait avec de la musique. Parce que c'était une façon de...
Pour les
adoucir, voilà, qui se passait bien. Voilà. Il y a un très beau film.
C'est absurde. D'un autre côté, leur foutaient des coups de bâton.
Au début, les premiers camps, ça a été les premiers trains pour la mort. C'était impensable en France, à Paris, de dire on est en train d'envoyer monsieur un tel dans des camps de la mort, ils ne reviennent pas. Ça, il va falloir attendre dans les années 40, 41, 42.
Pour être conscient de tout ça.
Pour être conscient. Ouais. Et après, c'est à partir des années. C'est surtout dans les 41, 42 qu'il faut boum, 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 il faut vraiment aller encore plus vite, parce que la guerre, elle commence à être. On va perdre. Ils vont perdre la guerre.
Ils vont perdre, oui.
D'accord ? Voilà. Pour le prochain livre.
Il était déjà mis.
C'est lequel?
Si, il était. On avait déjà dit celui-ci, le suivant, oui. Et Carmen était en France, elle a dit quel est le suivant, parce que je suis en France et comme ça j'achète les deux.
Moi je lui avais dit les deux, mais c'était pas
ça. C'était sûr. Mais
on le mettra sur la page.
C'était elle qui allait le présenter.
On mettra sur la page. Sur la page web très prochainement.
Je ne me souviens pas qu'elle avait dit que c'était elle qui allait le présenter.
Donc, le prochain livre est Agota. Agota Christophe, Le Grand Cahier.
Je vais essayer.
Donc on le mettra sur la page web pour que vous puissiez le voir. Déjà,